Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le 30e dimanche. Jésus dit encore la parabole que voici, à l'adresse de certains qui mettent leur confiance en eux-mêmes parce qu'ils sont justes et qui méprisent tous les autres.
Deux hommes montent au temple pour prier, l'un pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien se place en évidence et il prie ainsi : « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des humains, voleur, malfaisant, adultère, ou encore comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux fois par semaine, je paie la dîme de tout ce que j'acquiers. » Le collecteur d'impôts se tient à distance. Il ne veut même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappe la poitrine en disant « Mon Dieu, pardonne à moi le pécheur. » Je vous le déclare, c'est celui-ci, plutôt que celui-là, qui descend chez lui justifié. Car tout être humain qui s'élève sera humilié, et qui s'humilie sera élevé. Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Une parabole choc comme Jésus devait les aimer. Une parabole souvent mal comprise, sinon incomprise par bien des gens. Jésus ne fait-il pas l'éloge, l'apologie des voleurs et des traîtres? Et ne condamne-t-il pas les fidèles, les gens droits, ceux qui pratiquent la justice?
Cette parabole est propre à l'évangile de Luc. Elle vient dans la grande section de la montée vers Jérusalem où Luc a rassemblé un certain nombre d'enseignements de Jésus. Et beaucoup de ces enseignements, d'ailleurs, soulignent avec force la miséricorde infinie de Dieu. Notons l'homme qui sauve le Samaritain, qui est un hérétique aux yeux des Juifs orthodoxes, la guérison des lépreux, la pauvre veuve et enfin le collecteur d'impôts. Tous, Samaritains, lépreux, veuves, collecteurs d'impôts, sont en effet, dans la société d'alors, des gens qui sont marginaux par rapport à ces Juifs qui sont considérés ou se considèrent comme très fidèles aux préceptes de la Torah.
Et qui sont ces deux hommes qui viennent au temple pour prier?
Eh bien, l'un est pharisien, l'autre est collecteur d'impôts, ce qu'on appelle souvent un publicain. Regardons de plus près. Le pharisien, dans nos esprits, à nous aujourd'hui, a souvent une mauvaise réputation. Les récits des évangiles présentent le pharisien souvent comme un hypocrite. Certes, parmi les groupes pharisiens, il devait y avoir des hypocrites, mais tous ne l'étaient pas. Alors comment expliquer ce jugement sévère des évangiles sur les pharisiens? Eh bien, il peut y avoir plusieurs raisons. La première, ce serait l'hostilité des pharisiens envers les disciples de Jésus, dans les années 70, donc quelques 40 ans, après la mort de Jésus. En effet, après la guerre juive contre l'occupant romain qui a commencé en 66 et qui va se terminer par la chute de Jérusalem et l'incendie du Temple en 70, eh bien ce sont les pharisiens, le mouvement pharisien, qui va assurer la survie du judaïsme. Et ces pharisiens vont chasser les disciples de Jésus qui fréquentent encore les synagogues juives. Lorsque les récits évangéliques ont été rédigés, précisément dans les années 70, ils portent donc la marque de leur actualisation. Et c'est que toute parole de Dieu doit s'égoutter dans l'aujourd'hui qu'elle doit éclairer, pour qu'elle puisse nous aider à vivre selon l'Esprit du Père. Aujourd'hui encore, c'est là le rôle de tout partage d'évangile, de toute homélie. Actualiser la parole de Dieu. Cette description des pharisiens peut donc porter la marque des chrétiens des années 70. Mais ce jugement sévère sur les pharisiens peut être aussi la volonté des responsables des premières communautés de prévenir les chrétiens qui pouvaient peut-être se croire les seuls à être sauvés et qui pouvaient avoir la tentation de regarder avec condescendance ou dédain les païens. La parabole va éclairer cette attitude de confiance en soi et de mépris des pécheurs. Les pharisiens étaient en effet des croyants très pratiquants, qui étaient regroupés dans une sorte de mouvement de piété, une confrérie, où ils s'entraidaient à vivre en fidélité à la Torah, la loi de Dieu. Dans leur réunion, qui se déroule souvent au cours d'un repas rituel, les pharisiens étudient la Torah et prient avec ferveur. Écoutons comment Étienne Charpentier en fait la description.
Les pharisiens sont des hommes profondément religieux qui ont parié toute leur vie sur Dieu. Ils se savent, comme tout juif, appelés à vivre en présence du Dieu saint. Mais ils ont plus que d'autres ce sentiment que si l'entrée en communion avec un tel Seigneur est quelque chose de merveilleux, c'est aussi terriblement exigeant. Dans les périodes de trouble, nombre d'entre eux n'hésiteront pas à s'offrir au glaive des impies.
Donc à mourir martyr. Leur ardeur à pratiquer tous les préceptes de la loi écrite et de la tradition orale a valu aux pharisiens l'admiration des foules. Mais certains doivent aussi avoir abusé de cette admiration pour exercer non seulement une influence, mais même un certain abus de pouvoir sur les gens moins instruits qu'eux dans la Torah. Leur zèle religieux, qui les amène à vouloir rendre les autres semblables à eux, les a souvent conduits à imposer des obligations nombreuses au plan de la prière, du jeûne et de l'aumône, obligations qui en rajoutaient à la Torah et devenaient des fardeaux trop lourds pour bien des gens. Si certains des pharisiens sauront recevoir Jésus à leur table, si même l'un d'eux, Nicodème, saura le défendre devant les grands prêtres, la majorité des pharisiens s'est opposée à Jésus et à son enseignement. C'est probablement qu'ils contestaient la vision de la vie religieuse du prophète de Nazareth. Ils n'étaient pas d'accord avec sa manière d'être libre par rapport à la loi du Shabbat. Ce Shabbat, qui était un jour pendant lequel Jésus guérit, alors que c'est un jour de repos obligatoire. Les pharisiens ne partagent pas non plus la condamnation du temple que Jésus fait. En effet, pour Jésus, les sacrifices du temple ne peuvent pas sauver les humains. Et pour lui, c'est seulement la miséricorde qui peut libérer les cœurs du mal.
Et qui sont les publicains?
Les publicains, eux, sont à l'opposé des pharisiens quant à la piété et à l'observation de la Torah. Ce sont des collecteurs d'impôts, des percepteurs, des gens qui sont le plus souvent peu appréciés, voire même détestés. Ils travaillaient pour le compte des Romains, c'est-à-dire de l'ennemi, cet ennemi qui occupe le pays et qui est haï par tous les Juifs, un ennemi qui est un païen. Ils sont donc perçus comme des traîtres à la nation juive. Ils étaient aussi considérés comme des voleurs. En effet, ils étaient responsables d'un territoire et ils devaient remettre aux Romains une somme fixe qui était considérée comme la taxe des habitants de ce territoire. Ils devaient donc soutirer aux gens un impôt qui était doublement haï parce qu'il était payé à l'ennemi, à l'occupant, mais aussi parce que cet impôt était souvent aggravé lourdement d'une commission pour le publicain lui-même, une commission qui était parfois énorme. En effet, comme les publicains étaient plus ou moins libres de fixer le montant de l'impôt, ils étaient souvent tentés de prélever davantage que le dû et, bien sûr, d'empocher le surplus. Ce surplus sera variable selon la moralité du percepteur et sa conscience. Ces publicains sont donc vus par tous comme des pécheurs publics et qu'on met souvent au même rang que les prostituées. Eh bien, Jésus ne dira-t-il pas à l'égard des bons pratiquants, « Je vous le dis, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont au royaume de Dieu. » Eh bien, regardons maintenant l'attitude de chacun des acteurs. La scène se situe au temple. Le temple où une prière est célébrée deux fois par jour, à 9h le matin et à 3h l'après-midi.
Que fait le pharisien?
Eh bien, il se place en évidence pour s'écouter prier. Cette traduction est peut-être préférable à celle qui dit « debout, il priait en lui-même », car à l'époque, dans les lieux publics comme le temple ou la synagogue, on ne prie pas en soi-même, mais on prie à mi-voix. Le pharisien prie tourné vers lui-même. En effet, regardons, il est le sujet de tous les verbes de sa prière et Dieu en est le complément. Il prie Dieu en le remerciant pour les fautes dont il a été préservé, pour toutes les bonnes œuvres qu'il a accomplies. Oh, certes, sa prière peut être perçue comme une belle prière, toute gratuite, puisqu'il ne demande rien à Dieu. Il fait non seulement ce que les préceptes de la Torah demandent de faire, mais il en fait même davantage. Ainsi, il jeûne deux fois la semaine, le lundi et le jeudi probablement, alors que la Torah n'oblige à jeûner qu'une fois par an, à la fête de l'expiation. Dans sa pensée, il doit probablement jeûner pour expier les péchés de son peuple. Il donne également la dîme de tout, non seulement des marchandises pour lesquelles il doit le faire, mais aussi pour le grain et l'huile, des produits pour lesquels c'était le producteur et non pas l'acheteur qui devait payer la dîme. Et sans doute le fait-il pour que la Torah soit sauve, au cas où le producteur aurait omis de payer la dîme. Eh bien, on connaît des prières semblables à celles-ci dans les textes juifs, comme les textes du Talmud. Écoutons cette prière, qui est une prière pharisienne.
Je te remercie, Seigneur mon Dieu, de m'avoir fait prendre part à ceux qui fréquentent cette maison d'enseignement, au lieu d'être assis au coin des rues. Je me lève tôt comme eux, mais je me lève pour étudier la parole de ta Torah, et eux se lèvent pour s'occuper de choses sans importance. Je me donne de la peine, et eux s'en donnent aussi. Mais je me donne de la peine et j'en serai récompensé, tandis qu'eux se donnent de la peine et ne seront pas récompensés. Je cours et ils courent, mais je cours vers la vie du monde à venir, et eux courent vers l'abîme de perdition. Oui, béni sois-tu, notre Dieu, roi de l'univers, car tu n'as pas fait de moi un non-juif, tu n'as pas fait de moi un esclave, tu ne m'as pas fait une femme.
Eh bien, cette description du pharisien correspond bien à ceux qui sont les destinataires de la parabole. Il dit cette parabole à l'adresse de certains qui mettent leur confiance en eux-mêmes parce qu'ils sont justes et qui méprisent tous les autres. Ailleurs, dans le récit évangélique, les pharisiens ont déjà été décrits de cette manière.
Vous êtes, vous, de ceux qui se donnent eux-mêmes pour justes aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs.
De telles prières peuvent bien sûr nous surprendre et même nous choquer, mais sont-elles si inhabituelles que nous voudrions le penser? Aujourd'hui encore, n'y a-t-il pas des blancs qui remercient Dieu de n'être pas nés noirs? N'y a-t-il pas des hommes et des femmes qui remercient Dieu de n'être pas nés homosexuels? N'y a-t-il pas des bien portants, des bien instruits, des bien nantis qui remercient Dieu de n'être pas nés pauvres en des pays sous-développés? Parfois, ces prières, sans être dites, peuvent être secrètement pensées. C'est que personne n'aime vivre en marge de l'ensemble de la société et que ceux qui sont différents de nous nous insécurisent. On a tendance alors à expliquer leurs différences comme si c'était une maladie ou une faute. Lorsque les parents veulent prévenir leurs enfants de mauvaises fréquentations, ne sont-ils pas conduits à mépriser tel ou tel de leurs camarades? Il n'est jamais facile de condamner une attitude sans que cette condamnation ne rejaillisse sur la personne elle-même qui est jugée. Lorsque les prêtres catholiques autrefois voulaient préserver la foi de leurs ouailles, n'étaient-ils pas amenés à mépriser les chrétiens des églises protestantes?
Quelle est l'attitude du publicain?
Eh bien, si le pharisien venait se satisfaire devant Dieu de sa bonne conduite, le publicain, lui, vient confesser sa faute. Il se tient à distance et non plus en évidence. En effet, selon la sensibilité des Juifs, le pécheur doit se tenir loin de ce qui est saint tant qu'il n'est pas pardonné et purifié. Le publicain n'ose même pas lever les yeux, mais il se frappe la poitrine, exprimant son repentir. Dieu, sois-moi favorable à moi le pécheur. Une invocation qu'on peut aussi traduire « Mon Dieu, pardonne à moi le pécheur. Les deux traductions se justifient. En effet, le verbe grec traduit ici par être favorable traduit un mot hébreu qui veut dire aussi pardonner. Cette prière ressemble d'ailleurs à celle de Simon-Pierre lors de la pêche miraculeuse. Éloigne-toi de moi car je suis un pécheur. La conscience du péché est essentiellement conscience de s'être éloigné de Dieu qui est le seul saint. Remarquons la différence avec le pharisien. Le pharisien fait le compte de ses bonnes actions et il fait aussi le compte des péchés des autres qui sont voleurs, sans loi, adultères. Lui, le publicain, ne ressasse pas ses fautes, le pharisien l'a fait pour lui et il sait trop bien que Dieu connaît son péché. Il crie vers Dieu et ne fait appel qu'à sa bonté généreuse et toute gratuite. Mon Dieu, pardonne-moi, oh non pas en raison de mes efforts, mais parce que tu es bon et miséricordieux. Notons-le bien, c'est en Dieu que le publicain met sa confiance, alors que c'est en lui-même que le pharisien met la sienne. Rappelons-le, Jésus adresse cette parabole à l'égard de ceux qui mettent leur confiance en eux-mêmes parce qu'ils sont justes. Être juste et droit devant Dieu peut en effet nous conduire à penser que nous sommes le seul et unique auteur de nous-mêmes. Je suis moi et ne dépend de personne pour vivre et pour être. Une telle attitude ferme le cœur aux autres et donc ferme le cœur à l'amour. Or, qui se ferme aux autres et à l'amour se ferme à Dieu. Dans cette parabole, Jésus nous montre donc qu'il y a deux façons de se tenir devant Dieu, deux manières de vivre en lien avec Dieu. Apparemment, le pharisien est préoccupé de Dieu, « Je te rends grâce », dit-il, alors que le publicain est préoccupé de son péché, « Moi qui suis pécheur ». Mais en fait, l'un vient prendre Dieu à témoin de ce qu'il fait de bien et dont il s'attribue le mérite, tandis que l'autre se livre tout entier à la miséricorde du Père. L'un semble assuré de ses droits devant Dieu, il a gagné, pense-t-il, les faveurs de Dieu. L'autre n'a comme seule assurance que la bonté de Dieu. Il sait qu'il ne pourra même pas racheter toutes ses fautes, il lui faudrait en effet changer de métier et rembourser tout ce qu'il a fait payer en trop aux contribuables. Une chose peut-être irréalisable. Le récit de Zachée nous montrera pourtant un collecteur d'impôts qui promet de donner aux pauvres la moitié de ses biens et de rendre le quadruple de ce qu'il a pu voler. Mais ce qui a donné à Zachée la force de se convertir, c'est précisément l'attention et l'amitié de Jésus pour lui, une amitié qu'il n'a pas méritée. La prière du publicain est celle d'un désespéré qui sait n'avoir aucun droit à l'amour de Dieu, mais qui surmonte ce désespoir en faisant appel à la fidélité de ce Père miséricordieux.
Comment Dieu se situe-t-il devant ces deux attitudes?
Pour bien le comprendre, il faut peut-être éclaircir le sens du mot « juste » dans la bouche de Jésus. Pour les gens de la Bible, être juste, c'est vivre selon la Torah de Dieu, selon la loi, le droit divin, qui énonce ce qui est bien. Être juste, c'est donc avoir un cœur droit, marcher dans le droit chemin. Mais toute la Bible veut montrer que marcher droitement, c'est marcher avec un cœur qui aime. Et pour être un cœur aimant, il faut d'abord se laisser aimer. Ainsi, être justifié par Dieu, c'est se laisser aimer de Dieu et marcher avec lui droitement. Tout ce que nous faisons de bien est fait par amour. Tout ce que nous faisons droitement est fait avec Dieu, c'est-à-dire par l'amour et dans l'amour. Le mal, le péché se trouve d'abord dans le fait de nous isoler, de nous fermer à la communion. Souvenons-nous des deux fils du père prodigue. L'un s'isole de sa famille en partant au loin, l'autre s'isole aussi en refusant de pardonner et de partager la joie du retour de son frère. Oui, toute bonne œuvre est le fruit, la conséquence de l'amour. On ne peut donc en attribuer à soi tout seul le mérite. Nous disons souvent « tout est grâce », cela veut dire que tout ce qui est bon et bien se fait non dans le repliement sur soi, dans la solitude, mais dans la communion. Communion avec Dieu, communion avec les autres. Toute action bonne est comme une sorte de procréation. En effet, la procréation est l'œuvre à la fois de l'homme et de la femme. Jamais de l'une sans l'autre, de l'un sans l'autre. Et un des rôles de la prière est d'ouvrir en nous la place à l'action de Dieu, de creuser en nous ce cœur où l'Esprit divin pourra agir avec nous.
Je vous le déclare, c'est celui-ci plutôt que celui-là qui descend chez lui justifié.
Pourquoi le pharisien, qui est juste par sa conduite et ses actions, ne rentre-t-il pas chez lui justifié? Eh bien précisément parce qu'il se ferme à l'amour. D'abord en pensant que tout ce qu'il fait vient de lui et de lui seul. Ensuite en méprisant les autres, en se coupant de ceux qui ne vivent pas tout à fait selon la Torah. Il a le mépris de celui qui juge et qui condamne le pécheur, plutôt que de se sentir solidaire du pécheur, solidaire de celui qui manque à l'amour, parce qu'il manque d'amour. Oui, tout le bien se fait dans l'amour et par amour, et cela suppose l'humilité du cœur, car l'amour ne peut s'épanouir que dans l'humilité, qui est la condition de l'accueil de l'autre, de l'accueil de Dieu. Telle se présente la conversion à laquelle Jésus nous appelle. Le chrétien n'est pas un homme juste, mais un homme justifié. Il n'est pas un être gracieux, mais un être gracié. Eh bien, terminons par un petit fait qui illustre pour moi cette parabole. Il s'agit de mes amis André et Aline. Ils venaient pour préparer la messe de célébration de leurs 25 ans de mariage, et nous feuilletions ensemble l'évangile, mais aucun des textes ne semblait leur convenir. Sauf quand nous sommes arrivés à l'évangile de la vigne dans l'écrit de Jean.
Je suis le cep et vous êtes les sarments. Qui demeure en moi porte beaucoup de fruits.
J'étais heureux d'avoir enfin trouvé un texte, mais je voulais comprendre pourquoi celui-là était le bon. Et voici ce qu'André m'a répondu.
Vois-tu, à cette messe, il y aura bien des gens qui sont séparés et divorcés. En fêtant nos 25 ans de mariage, nous ne voulons pas avoir l'air de leur faire la leçon. D'ailleurs, au début de notre mariage, ça allait très mal pour notre couple. Je m'étais mis à boire, je laissais ma femme seule avec les enfants. Nous avons été au bord de la séparation. Si aujourd'hui nous sommes si heureux ensemble, entre nous deux et avec les enfants, ce n'est pas parce qu'on est meilleur que d'autres. Nous, on n'a fait qu'accueillir.
Nous, on n'a fait qu'accueillir. Et comme je demandais ce qu'ils avaient accueilli, voici ce qu'André m'a répondu.
J'ai rencontré le mouvement des alcooliques anonymes, puis la communauté chrétienne COPAM. Nous avons rencontré là des gens qui nous ont acceptés tels que nous sommes, et qui nous ont aidés, qui nous ont aimés. À travers eux, c'est aussi l'amour de Dieu que nous avons accueilli. Vois-tu, Georges, on est heureux, non pas parce qu'on l'a mérité plus que d'autres. Nous, on a juste fait qu'accueillir.
Nous, on a juste fait qu'accueillir. Comme voilà une phrase qui résume bien l'Évangile et qui est si proche de toute la pensée aussi de saint Paul. Dans ces mots, André redisait l'Évangile de Jésus. Ce dernier est rentré chez lui justifié, riche de l'amour de Dieu, un amour qui va le faire revivre, qui va le remettre debout. Un amour accueilli, mais pour être partagé avec d'autres dans l'humilité.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
514-256-4110. Vous trouverez aussi ce texte sur Internet. Voici l'adresse de notre site, les www.relaismontroyal.com. Relais Mont-Royal en un seul mot et sans trait d'union.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, rendez-vous à la semaine prochaine. En attendant, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.